Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Faut-il rappeler que vous êtes jardinier en chef au domaine de Versailles et donc il ne vous a pas échappé qu'il a été pas mal question cette semaine du glyphosate.
Un herbicide commercialisé en 1975 par la célèbre firme Monsanto et qui entre dans la composition du fameux Roundup. Le glyphosate est tombé dans le domaine public en 2000 et il est donc aujourd'hui commercialisé par plusieurs sociétés. Fort heureusement, et depuis le 1er janvier, les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, les pesticides si vous préférez, sont interdits d'emploi sur les trottoirs et dans les jardins publics, et le glyphosate n'échappe pas à cette mesure.
Ouais, d'autant que l'utilisation de ces produits présente des risques pour la santé humaine et l'environnement.
Il est donc interdit aux collectivités d'épandre des produits sur les jardins et les voiries pour des raisons de santé publique quand ces mêmes produits sont dispersés en toute légalité sur des terres destinées à l'alimentation. Cherchez l'erreur.
En 2019, ce sont les jardiniers amateurs qui devront d'abord s'en passer.
Il y a du mieux, ils ne sont déjà plus en vente libre, conformément aux souhaits de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, qui déclarait ici même sur les ondes de France Inter, je la cite, « Je fais retirer des jardineries la vente en direct du Roundup, qui est un pesticide extrêmement violent. » Alors il est aisé de comprendre le désarroi des Monsanto, Bayer et autres compagnies, quand on sait que pour la seule année 2015, les Français ont dépensé en produits pour leur jardin près de 620 millions d'euros.
Et il faut dire aussi que les experts sont toujours divisés au sujet de la dangerosité du glyphosate.
C'est en effet un vieux débat. Souvenez-vous du professeur Richard Doll, un spécialiste anglais réputé pour le sérieux de ses travaux, qui déclarait avant de mourir en 2005 que l'agent orange, un herbicide redoutable employé pendant la guerre du Vietnam comme défoliant, n'était en rien cancérigène. Comment douter d'une personne anoblie par la reine d'Angleterre et maintes fois récompensée par ses pairs ?
Et
il a été prouvé, après sa mort, que notre scientifique était payé par Monsanto et que l'agent orange est bien cancérigène. Monsanto, ce sont aussi les OGM, mais là encore, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parlons par exemple de l'amarante, une herbe dite mauvaise, qui est d'ailleurs assez jolie, mais qui est devenue un casse-tête pour les céréaliers américains. Alors l'histoire commence il y a quelques années en Géorgie, où un agriculteur cultive du soja, un soja transgénique, résistant au Roundup. On y revient. Il a donc semé ses graines et utilisé le fameux désherbant. Contrairement à nombre de scientifiques qui prétendent qu'une hybridation entre une plante, pardonnez-moi, génétiquement modifiée et une plante sauvage est impossible, il semblerait pourtant que ce soit le cas avec notre amarante qui aurait muté et résisterait maintenant au Roundup avec de lourdes conséquences. Les champs sont envahis par l'amarante et il est devenu impossible de tuer chimiquement ces plantes et les paysans. Bien sûr, n'ont pas les moyens de désherber manuellement. Le problème ne concerne plus seulement la Géorgie, mais aujourd'hui aussi la Caroline du Sud, le Nord et du Nord, le Tennessee, l'Arkansas et le Missouri et le Mexique. Il existe maintenant des dizaines de milliers d'hectares, près de 100 000 pour être précis, recouverts d'amarante et devenus impropres à la culture, avec pour conséquence de mettre en faillite des milliers d'agriculteurs. Mais ça, bien sûr, ça ne peut pas arriver en Europe. Tous ceux qui sont favorables à l'emploi du glyphosate me l'ont garanti. Alors continuez à nous prendre pour des imbéciles, on adore ça.
Alain Baraton, vous allez répondre maintenant aux questions des auditeurs. Vos conseils jardinage avec Daniel pour commencer. Daniel vous dit qu'il a un beau camélia sur son balcon, mais ce sont ses voisins qui en profitent, enfin qui profitent de sa floraison. Alors Daniel a décidé cette année de retourner le pot pour profiter un peu de la floraison. Est-ce qu'il va provoquer une catastrophe ?
Eh bien non, et il a raison. La plante va produire des fleurs du côté du soleil, bien évidemment, donc à l'opposé de la façade de son bâtiment. Et les voisins profitent de la floraison. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement ne pas toucher à la plante aujourd'hui, mais quand les fleurs seront à peine ouvertes, on retourne le végétal et on profitera dans la maison de la floraison sans aucune conséquence pour le devenir de la plante.
Question d'actualité de Jacqueline, elle vous demande, faut-il retirer la neige tombée sur mes arbustes ?
Non, parce que la neige est un manteau qui protège du froid quand il est intense. Attention toutefois aux plantes comme les conifères qui peuvent souffrir du poids de la neige, dans quel cas effectivement un petit coup de balai ne sera pas de trop pour éviter là non plus les conséquences du froid de la neige, mais de la cassure due au poids de cette neige. Et on ne fera cette intervention que s'il ne gèle pas dehors pour éviter justement de casser les végétaux qui sont extrêmement fragiles quand ils gèlent.
Isabelle vous dit qu'elle a un chêne bicentenaire porteur d'un polypore visible sur le tronc. L'arbre est également attaqué par des capricornes. Alors peut-on le soigner ou devons-nous abattre ce bel arbre?
C'est très compliqué. Déjà, le polypore est un champignon. C'est en fait la fructification d'un réseau de mycélium qui vit à l'intérieur du bois. L'arbre a donc amorcé sa dégénérescence. Il est en train de mourir doucement, mais certainement. L'arbre ne peut pas être soigné, ne pourra pas être sauvé. Les capricornes profitent justement de cet affaiblissement du végétal pour s'introduire dans le bois. J'en profite pour rappeler que le grand capricorne est protégé par la loi. Donc si ce chêne vit dans un endroit sécurisé, s'il n'y a pas de risque pour les enfants, pour le voisinage, on le laisse regarder finir sa vie paisiblement, il peut rester ainsi quelques centaines d'années. C'est qu'un chêne peut vivre 2000 ans. Hein.
Voilà. 2000 ans un chêne?
Ah oui, le chêne sur la commune de Pessines, Charente-Maritime, 1800 ans. Mais si l'arbre est en bordure de route ou près d'une maison, il est peut-être préférable de le couper.
Question de Georgette qui vient d'arracher un arbuste pour le planter ailleurs. Combien de temps puis-je le laisser en jauge, je vous demande Georgette?
Le minimum.
Bon, voilà. Combien de temps le minimum?
On peut laisser les arbustes en jauge pendant 2 ou 3 mois, il n'y a pas de problème, mais une plante aime bien être dans la terre.
Un conseil de lecture pour terminer.
Très bel ouvrage, vraiment très beau. Le parc de Saint-Cloud, c'est un parc qui est en bordure de Paris. Les textes sont de Christophe Pincemaille et les photos de Eric Sanders. Magnifique photo, magnifique texte. On apprend quantité de choses sur ce parc trop peu connu.
Il va falloir lui mettre une écharpe, Eric.
Oui, parce qu'il est en train de perdre sa voix.
Il est en train de perdre sa voix. Demain, comme tout le monde. Demain, on ne pourra plus l'entendre.
Il fait moins 1 dehors.
Bon, un peu comme tout le monde, ce matin, on va prendre des grogues.
C'est pas l'hiver, mais c'est bientôt l'hiver. C'est un peu normal, Alain Barateau, il faut se couvrir.
Ouais, mais j'ai mis ma petite laine.
Merci Alain et à demain.